Ireland.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour et bienvenue pour cette rediffusion des meilleurs moments d'accent avec des supermarchés qui donnent la nourriture au lieu de la jeter, reportage à Londres et correspondance en Espagne, des sites radioactifs à l'air libre à 15 km de Sofia, une pêche très à cheval en Belgique et la bonne pêche pop de Vincent Théval. Dans les sociétés habituées à l'opulence, certaines habitudes commencent à changer un peu. Ainsi, il est de moins en moins acceptable que des tonnes de nourriture invendue partent à la poubelle, on le verra en Espagne. Au Royaume-Uni, ce sont 18 millions de tonnes de nourriture qui partent chaque année à la poubelle. Or, selon plusieurs associations, la majorité pourrait être consommée. Depuis la préapparition en grand nombre des banques alimentaires dans le pays, ce gaspillage est devenu un problème. Marie Billon est allée voir comment certaines entreprises s'organisent pour réduire leur « food waste », comme on dit en anglais.
Ça va partir pour un centre d'accueil pour sans-abri pas loin d'ici. Aujourd'hui, on leur donne du lait, du poulet aigre doux en barquette, des haricots blancs à la tomate, des clémentines, des tomates et du pain. C'est plutôt pas mal.
And some bread. Pretty good, I'd say.
Potatoes, please.
Shakira Silvestri dresse l'inventaire d'une livraison. L'association Faire Cher répète l'opération des dizaines de fois par jour. Son fonctionnement est simple. Elle récupère les aliments que les supermarchés renoncent à vendre, évitant ainsi qu'ils ne partent à la poubelle. Le nom de Faire Cher est déjà tout un programme. Un jeu de mots entre part équitable et partage de nourriture.
Les fabricants fournissent des aliments aux supermarchés, mais une fois arrivés dans les grands centres de tri, certains produits sont rejetés pour une raison ou pour une autre. L'emballage est abîmé, le lot est trop gros ou il y a eu une erreur dans la commande. Alors au lieu de les jeter, Faire Cher les récupère. Ce sont des bons produits, ils auraient pu aller sur les étagères d'un supermarché.
Ce sont donc des produits frais, propres à la consommation, que l'association récupère pour les distribuer ensuite aux foyers d'accueil et aux soupes populaires. Lindsay Boswell est le chef exécutif de Faire Cher.
Nous travaillons avec 1000 associations qui nourrissent chaque jour 51 000 personnes. Nous sommes fiers de ce chiffre de 51 000. Mais nous estimons aussi que cela ne représente qu'1% de la nourriture gaspillée au Royaume-Uni. 300 à 400 000 tonnes d'aliments propres à la consommation sont jetées chaque année ici, alors qu'ils pourraient servir à nourrir les gens.
Avec près d'1 million de Britanniques qui auraient du mal à se nourrir, l'entreprise de Faire Cher gagne en popularité et la plupart des grands supermarchés britanniques ont un accord avec l'association pour faire la chasse au gaspillage.
Certaines personnes sont tellement désespérées qu'elles vont fouiller dans les poubelles des supermarchés. C'est indigne. Alors on fait d'une pierre deux coups en empêchant ça et en réorientant ces gens vers les associations avec lesquelles nous travaillons. Comme ça, ils peuvent se nourrir et aussi parler avec des spécialistes qui pourront les aider à résoudre leurs problèmes.
Mais dans les 18 millions de tonnes de nourriture non consommées recueillies chaque année au Royaume-Uni, il y en a une partie qui n'est pas propre à la consommation humaine. L'incinérer n'est pas bon pour l'environnement. En revanche, il y a une solution très naturelle que la Pig ID tente de mettre en place. Elle a fait un essai l'an dernier dans une ferme au cœur de Londres, la Stepney City Farm.
On a nourri 8 cochons avec des graines issues de la fabrication de la bière provenant d'une brasserie locale, du petit lait provenant d'un fromager de Peckham, des épluchures de légumes d'un traiteur, et on a aussi pu utiliser les invendus d'un marché local.
En échange, la ferme de Stepney a fait des économies en commandant moins de rations pour ses cochons, des rations en partie composées de fruits et de légumes qui, eux, sont propres à la consommation humaine.
Il y a beaucoup de nourriture gâchée parce qu'elle est jetée, mais il y a aussi beaucoup de nourriture gâchée parce qu'on nourrit les animaux avec, alors que les cochons et les volailles adorent manger nos restes. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le fermier et pour les commerces locaux aussi. C'est bon pour la sécurité alimentaire globale. On ne gâche pas les récoltes en les donnant aux cochons.
to pigs.
La Pig ID voudrait étendre sa liste de fournisseurs au supermarché, peut-être, parce que les cochons ne sont pas très regardants sur ce qu'on leur donne à manger, même s'ils dédaignent les champignons et les aubergines, par exemple.
Les fruits et légumes qui ne sont plus très beaux et plus très bons peuvent être utilisés pour nourrir les cochons. Il ne s'agit pas de leur donner des produits moisis, mais s'ils sont juste trop mûrs, c'est bon. Il n'y a aucun danger pour le porc ou pour les consommateurs qui mangeront sa viande.
Les supermarchés, les petits commerçants et les fermiers se remontent donc les manches pour faire la chasse au gaspillage. Il faudrait que les particuliers s'y mettent eux aussi. La campagne Love Food Hate Waste, aimer la nourriture, détester le gâchis, veut aider les consommateurs britanniques à faire leurs courses efficacement. Cela réduirait grandement le taux de nourriture gâchée. En 2013, chaque foyer aurait jeté en moyenne l'équivalent de 6 repas par semaine.
Le reportage de Marie Billon au Royaume-Uni. Dans une Espagne en crise profonde, près de 25% de la population serait au bord de la grande pauvreté. Les initiatives de solidarité se multiplient et là encore, les supermarchés changent d'attitude. À Madrid et quelques autres villes espagnoles, un collectif de citoyens, le réseau de solidarité populaire, révolté par la pauvreté, s'est organisé pour répartir de la nourriture excédentaire offerte par les supermarchés. François Musso.
On les a baptisés les despensas solidarias, les garde-manger solidaires. Un kilo de pâtes, de riz, de haricots, 4 litres de lait, des biscuits, du sucre, de l'huile, du thon, des œufs, des céréales et du lait spécial pour les bébés, et aussi du dentifrice et du savon. C'est la quantité estimée nécessaire pour une personne pendant un mois. Ces provisions sont offertes par les membres de ce vaste réseau de sympathisants et aussi par des petits commerçants ou des supermarchés qui ne savent pas quoi faire de leur surplus. Les provisions sont constituées puis stockées dans des locaux d'associations, des centres sociaux ou des collèges. La principale originalité de cette initiative, c'est le mode de distribution de la nourriture. L'offre disponible est communiquée par Internet, sur la page web du réseau, via Facebook, de bouche à oreille aussi. Mais il ne faut pas imaginer un genre de soupe populaire, plutôt une banque d'aliments. Pas question pour ce réseau solidaire d'organiser une distribution dans la rue où des centaines de gens s'agglutineraient. Ismaël González, un des responsables, souligne qu'il déteste la charité. On ne veut rien de vertical, on veut quelque chose d'horizontal, dit-il. C'est pour eux une question de dignité. Pas question non plus de proposer des aliments sur le point d'être périmés. Les familles nécessiteuses s'approchent des assemblées, on parle avec elles, on organise un suivi et on répartit les rations alimentaires en fonction des besoins. Et surtout, on tente d'éviter le rapport dominant-dominé. Leur slogan principal est celui-ci: un jour, c'est toi qui reçois, un autre jour, peut-être, c'est toi qui me donneras.
C'était l'un des secrets les mieux gardés du régime communiste bulgare, l'extraction de minerais d'uranium. Aujourd'hui, les gisements sont fermés, les mines scellées, du moins sur le papier. Certaines d'entre elles n'ont pas subi de réhabilitation et des poches de radioactivité subsistent même dans les communes proches de ces gisements. Damian Vodenicharov s'est rendu sur place, compteur Gégère en main.
Chaîne des Balkans, à une quinzaine de kilomètres de Sofia, nous sommes au pied du versant sud de la montagne. La nature y est belle, tout en vallées et en collines. En y regardant de près, on peut y déceler des cicatrices profondes. Ce sont les vestiges industriels de la métallurgie et de l'exploitation des mines. L'extraction d'uranium était un secret quasi militaire lorsque les mines étaient encore ouvertes. Découvert en 1928, les gisements commencent à être exploités 10 ans plus tard par une entreprise allemande. Après la prise du pouvoir par les communistes, c'est l'URSS qui reçoit l'uranium bulgare. Celui-ci aurait même servi en partie à faire exploser la première bombe atomique russe. Plus tard, l'URSS enrichira l'uranium bulgare pour le convertir en combustible nucléaire, explique Dimitar Velichkov, géologue spécialiste de l'uranium.
On envoyait le minerai au port de Varna pour le transporter en URSS, qui nous rendait du combustible nucléaire pour notre centrale. C'était un processus très important pour entretenir de bonnes relations avec l'URSS.
Dans les années 70, la Bulgarie commence même à surproduire. Avec sa cinquantaine de mines actives, le pays fournissait un excédent de plusieurs centaines de tonnes. Dimitar Velichkov.
Nous avions besoin d'environ 500 tonnes d'uranium par an pour notre centrale nucléaire. Nous en produisions entre 600 et 700 tonnes. Nous avions donc la possibilité d'élargir l'extraction.
En 1992, sans l'assistance de la Russie, les mines deviennent trop chères à entretenir pour les autorités bulgares. Le gouvernement décrète alors l'arrêt de l'exploitation. Le processus ne sera finalisé qu'en 2006. Aujourd'hui, la région ressemble à un gruyère. Elle est riche en métaux, notamment en uranium. L'extraction du minerai s'est terminée il y a plus de 20 ans, mais certains sites inquiètent les écologistes et les habitants. Todor Dimitrov est à la fois originaire de la région et géophysicien. Il a des dizaines d'années d'expérience dans la prospection d'uranium et dans la radioprotection. Aujourd'hui, il s'est converti à l'écologie. C'est en sa compagnie que nous nous rendons à Seslavtsi. C'est un petit village dans lequel était située la mine du 9 septembre. Les dernières maisons se trouvent à peine à quelques mètres des entassements de résidus miniers. Par un petit sentier, nous gagnons le monastère de Seslavtsi, construit au beau milieu de la mine. Derrière lui, un amas de plusieurs dizaines de mètres domine les lieux. Et il est radioactif, affirme Todor Dimitrov.
Ce site est inquiétant en raison d'une forte activité à la surface. Elle est des dizaines de fois supérieure aux normes. Il s'agit en fait de déchets radioactifs qui peuvent atteindre des doses de 1000 microrentgens heure et plus.
Pour vérifier la radioactivité des lieux, nous escaladons l'entassement. Un compteur GGR soviétique en main, Todor mesure les valeurs.
Voilà, cette région-là atteint 300 microrentgens par heure. Ici, il y a un objet qui atteint 1000 microrentgens par heure. Ici, environ 2000 microrentgens par heure.
Ces chiffres le prouvent. Le site n'a pas été réhabilité après sa fermeture. Curieux, car un autre entassement à proximité a été traité afin de piéger les radiations et les poussières imprégnées d'uranium. Todor nous conseille d'ailleurs de bien dépoussiérer nos vêtements et nos chaussures en rentrant. Le véritable danger est là. Les doses ne sont pas assez fortes pour l'irradiation directe, mais des éléments radioactifs pourraient pénétrer dans l'organisme et le ronger à petit feu. Un peu plus loin, en plein milieu de la forêt, on tombe sur des galeries minières. Certaines demeurent scellées, d'autres sont béantes, des briques et du béton éparpillés tout autour. Todor explique.
On peut voir que des mètres cubes de béton ont été déversés ici. Des gens pénètrent dans les galeries pour s'emparer des métaux délaissés. Il y a des câbles en cuivre ou des rayons fer, c'est très dangereux. Il y a des gaz nocifs, sans aucune aération, des écroulements peuvent se produire et les métaux sont contaminés.
Le village de Seslavtsi n'est pas le seul à être touché. Bouhovo, une ville de 3000 habitants, est à quelques kilomètres. C'était là qu'était installée la société qui gérait l'extraction de l'uranium dans tout le pays. Ses bureaux sont aujourd'hui en ruine, mais pas son héritage. Nous y rencontrons le maire d'Etelina Chobanova. Elle hésite d'abord à nous recevoir. Elle ne veut pas perpétuer ce qu'elle appelle la stigmatisation de la région. Mais son récit est sans ambiguïté.
Grâce au compteur, on retrouve des capsules radioactives. On les avait jetées n'importe comment. Les véhicules qui transportaient l'uranium n'étaient pas couverts correctement non plus. Il y a 2-3 ans de ça, un reportage avait été réalisé sur le sujet parce qu'on avait retrouvé ces bouts de minerais tout près de l'école.
Le maire affirme que les examens médicaux des élèves sont inquiétants. Tout lien est cependant difficile à prouver et cette petite ville n'a pas les moyens de financer une enquête. Detelina Chobanova a pourtant tenté de saisir les autorités.
On a commencé à écrire des rapports, à s'appeler, à se rejeter la responsabilité du problème. En fin de compte, les institutions n'ont pas pu se mettre d'accord sur qui fait quoi. Et comme dans la plupart des cas, personne n'a rien fait.
Le contrôle de la radiation est en fait éparpillé entre une demi-douzaine de ministères et d'agences, alors que la gestion et la réhabilitation des mines est chapeautée par une entreprise publique, dont le seul responsable est le ministère de l'Économie et de l'Énergie. Celui-ci n'a pas voulu répondre à nos questions. En prenant des photos d'une mine réhabilitée, un garde nous a même interpellés pour nous indiquer poliment qu'une autorisation était nécessaire. Malgré la polémique actuelle qui entoure la sécurisation de ces anciens sites d'extraction du minerai radioactif, le ministère actuel de l'énergie a évoqué la possibilité de redémarrer l'extraction d'uranium, une idée qui avait germé dès 2006.
Elle est sans doute moins connue que le flamenco, les chants corses ou la gastronomie à la française. Et pourtant, la pêche aux crevettes à cheval fait maintenant, elle aussi, partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Cela se passe à Oost-Doinkerke, petite station balnéaire à 15 km de la frontière française, Barbara Schall.
En Belgique, tout le monde a cette image en tête, celle d'un pêcheur à dos de cheval. Ciré jaune, capuchon et bottes montantes, les deux compères s'éloignent en direction de la mer. Le cheval, c'est un brabançon, un animal robuste à la large croupe qui résiste bien aux températures frisquettes de la mer du Nord. Le cheval s'enfonce dans l'eau jusqu'au poitrail, puis le pêcheur et sa monture longent la côte. À l'arrière, le canasson traîne un long filet, c'est là que sont piégées les crevettes. Toutes les demi-heures, le tandem sort de l'eau, il faut décharger le filet et déposer les crevettes dans les deux gros paniers que le cheval porte sur son flanc. Ensuite, le produit de la pêche est directement vendu sur le port aux habitants du coin ou aux visiteurs de passage. Aujourd'hui, 12 familles cultivent encore précieusement ce savoir-faire. Les pêcheurs sortent deux fois par semaine à marée basse, d'avril à octobre. À chaque pêche, ils récoltent entre 5 et 7 kilos de crevettes. De quoi apporter un complément de revenus à ses agriculteurs et artisans. 12 familles seulement, mais la tradition est encore bien vivante. On lui réserve une place de choix dans les brochures touristiques, des fêtes folkloriques et des rencontres avec les enfants sont souvent organisées. D'ailleurs, c'est symbolique, l'an dernier, la toute dernière visite officielle du roi Albert II, juste avant son abdication, c'était à Oost-Doinkerke, chez les pêcheurs.
Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité.
Sit back, relax, and close your eyes.
Et comme chaque jour de l'été, on retrouve Vincent Teval pour sa pop estivale.
Yaltalin, c'est un collectif islandais, une petite dizaine de musiciens qui sont tous passés par le conservatoire et excellaient jusqu'à présent dans le registre d'une pop baroque densément orchestrée. Je précise jusqu'à maintenant parce que Yaltalin a effectué une mue spectaculaire sur son troisième album, l'étonnant Enter Four, où le format des chansons s'étire beaucoup et où les mélodies se parent d'arrangements parfois étranges, avec ça et là une pointe d'électronique. Leur façon de chanter aussi a un peu changé, plus expressive, parfois un peu ampoulée, mais le risque à payer, à domicile en tout cas, puisque Yaltalin n'a jamais été aussi populaire en Islande. On écoute un des titres les plus courts et efficaces de l'album, Crack in a Stone.
Françoise Grelot a réalisé cette émission, à retrouver demain sur les ondes et tout de suite sur les pages RFI, Facebook et Twitter d'Accent d'Europe.